Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Ce souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mois. Je vais trouver de rushing.
Nous parlons tous dans la logosphère.
Vous êtes ici.
Vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi,
le
citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bienvenue à toutes et à tous dans notre Tous au poste, notre virée culturelle. Nous sommes le jeudi 4 février, il fait gris souris et nous embarquons et bien pendant 50 minutes. Manuel Plaza au petit bouton de la technique, Julia Chamodon et Ricardo aujourd'hui au micro. Nous allons vous parler de quoi ? Eh bien, dans une première partie, nous parlerons de cet événement qui se déroule en ce moment à l'université Paul Valéry. J'ai bien sûr nommé les Turbulences Sonores. Les Turbulences Sonores, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un festival de musique contemporaine. En deuxième partie, on retrouvera Ricardo qui nous fera un petit point sur la situation désastreuse à Haïti. Et puis, on enchaînera bien sûr avec notre nouveauté discographique de la semaine, on écoute en ce moment Microfilm, The Bay of Future Past. Et puis, bien, sans plus attendre, et pour l'heure, puisque l'heure tourne, passons à nos chers bons plans. Le premier bon plan Divergence FM de ce jour, c'est bien sûr la venue de Charlie Winston. Lorsqu'il a rencontré Wax Taylor, il était encore inconnu. Il figure maintenant parmi les artistes phares de la scène blues folk. Charlie Winston, chanteur, guitariste et pianiste anglais, fait résonner ses gimmicks pop à 20h au Zénith. Il vous en coûtera 33€. À l'occasion de la sortie du nouvel album Les Affranchis qui sort aujourd'hui dès ce matin dans les bacs, Alexis HK revient sur scène avec son univers humaniste tout en douceur. Cet auteur, compositeur de chansons françaises se produit ce soir à 21h au théâtre Jean Villard, 155 rue de Bologne, à la Paillade, à la Mosson. Il vous en coûtera entre 4,50€, nous dit-on, pour les moins de 16 ans, jusqu'à 13€. Je rappelle également qu'un mini-concert et une séance de dédicace se déroulent à 18h au forum de la FNAC. La solidarité à Haïti, on en parle à partir de 12h40 dans notre Tous au poste avec Ricardo. Il y a également ce soir l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Robert Tuohy, qui interprète la 40e symphonie de Mozart sur des œuvres de Bach et de Boccherini au profit de la Fondation de France Solidarité Haïti. C'est à partir de 20h à la salle Molière, de l'Opéra Comédie Boulevard Victor Hugo. Il vous en coûtera 20€. Notre festival de musique contemporaine montpelliérain Turbulences Sonores se déroule ce soir à partir de 19h15 et une deuxième session à 20h45. On en parle un petit peu plus dans notre Tous au poste à 12h20. Ça se déroule au théâtre de la Vignette à l'université Paul Valéry, route de Mende, l'entrée est libre. Côté danse, on ne sera que rappeler que Qu'est-ce que tu deviens ? Le spectacle 2 est mis en scène par Aurélien Bory et chorégraphié et interprété par Stéphanie Foster. Se joue en ce moment au Théâtre des 13 Vents à Grammont. Un spectacle magnifique, un flamenco qui ne s'entache pas des apparats du flamenco et du folklore, mais quelque chose d'émotionnel. On l'a vu mardi soir, on l'a reçu Stéphanie hier. C'est un grand moment, je vous le conseille vraiment, c'est un bon plan Divergence FM, 19h au Théâtre des 13 Vents à Grammont. Il vous en coûtera entre 11€ et 21€. Rémi DeVos, que nous accueillions également la semaine dernière. Rémi DeVos, qui est un auteur, metteur en scène, qui crée Alpenstock. Alpenstock, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une pièce de théâtre avec notamment Charlotte Petitpas, Antoine Rosenfeld et Pierre-Antienne Royer. C'est l'histoire d'un couple dans un pays aseptisé, perturbé par l'arrivée de l'étranger. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est à 20h30 au théâtre d'eau, route de Grabel. Il vous en coûtera 12€. Et pour nos chères têtes blondes, nos chérubins, eh bien ce sont des clowns ce soir, avec Envers et Contre Tout, un cabaret burlesque créé par Luc Miglietta pour fêter les 10 ans du Théâtre La Vista, avec notamment Estelle Sabatier, Françoise Boccadifouco, Patrick Pellet, Emmanuel Valeur, Luc Miglietta, Bruno Meria, plus des invités, nous dit-on. C'est à 21h au théâtre La Vista, 42 rue Adam de Craponne. Il vous en coûtera entre 9 et 12 euros. L'identité nationale, on en parle beaucoup en ce moment, peut-être un peu trop, en tout cas ça fait gagner du pain et manger beaucoup de gens, la presse, les politiques. Ce soir, une rencontre est organisée sur le thème du débat identitaire au débat citoyen, la nation, une question de projet, de citoyenneté et non d'identité finalement. C'est organisé par les Amis de l'Humanité, on les recevait hier dans notre Tous au poste à midi 20, ils seront ce soir à 18h à la salle Guillaume de Nogaret, espace Pito, rue Pito, l'entrée est libre. François Xavier n'est pas couché. Et oui, l'exposition des tableaux de Jean Raoult revient pour une deuxième édition. L'année dernière, c'était la première édition de cette manifestation. C'est organisé par les étudiants de l'université Paul Valéry. C'est de 20h à minuit au musée Fab, 39 boulevard Bonne Nouvelle sur l'Esplanade. Vous vous baladerez donc à travers les œuvres, les tableaux de Jean Raoult sur un dispositif et une démarche assez contemporaine, dirons-nous. Côté cinéma, eh bien, le Ciné-Club refait son show avec notamment ce soir Lola Montes, un film de Max Ophuls qui est sorti, je vous le rappelle, en 1955 avec Martine Carole, Peter Ustinov. C'est dans le cadre du Ciné-Club Jean Vigo et ça se déroule à 20h au centre Rabelais, 29 boulevard Sarail sur l'Esplanade. Eh bien la séance, on me dit que les 5 séances coûtent 22 euros. Faites le calcul pour une séance seulement. Tony Gatliff revient avec son film Liberté, un film qui vient tout juste de sortir. Il le présente ce soir, suivi d'un débat. C'est à 19h50 au cinéma Diagonale Capitole, 5 rue du Verdun. L'entrée est à 7 euros, le réalisateur sera là. Voilà, c'est la fin de nos bons plans. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose à vous mettre sous l'oreille ou sous les yeux pour ce soir. On passe tout de suite à notre nouveauté de la semaine. Aujourd'hui, eh bien, c'est Microfilm, The Bay Future Past. On erre comme ça entre rock, folk et chansons réalistes. Et puis, peut-être aussi pas mal des extraits de cinéma. En tout cas, l'auteur s'inspire beaucoup de ce genre. Tout de suite, eh bien, on écoute Dernière Séquence.
My name is Ruth Collins. I was married. I lost my husband. You are alone.
Must be hungry, I'll fix your smile.
Et en première partie de ce Tous au poste, c'est avec plaisir que nous recevons Maki Solomos et Armel Orio, qui tous deux participent au Festival Turbulence Sonore. Festival Turbulence Sonore, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de musique contemporaine ou peut-être d'expérience de l'écoute, comme il est inscrit sur la petite feuille de salle lorsqu'on entre dans cette antre assez particulière de la musique contemporaine. Olivier est également avec nous, qui est étudiant en musicologie et qui va également mener l'interview avec moi. Alors, on va vous poser des questions. Moi, je me fais le chantre de la personne qui ne connaît absolument pas la musique contemporaine, puisque c'est le cas. Je suis venue hier en complète auditrice et je n'y connais rien. Et donc, toutes ces questions s'adressent à vous. Olivier va avoir un regard un petit peu plus pointu sur la chose, puisque lui, il mène ses études autour de ça, notamment. Bonjour à tous et bienvenue.
Bonjour.
Alors, on va commencer cette interview déjà pour situer la musique contemporaine. Qu'est-ce que c'est ? Comment la caractériser ?
La musique contemporaine, ça serait la musique de notre temps, en précisant qu'il s'agit d'une musique qu'on peut appeler avancée, d'avant-garde, qui se refuse à ce qu'on peut appeler la récupération, la commercialisation. On pourrait aussi dire une musique qui résiste justement à la tendance à la chosification, à la réification qui nous environne, où tout est en train de transformer en marchandise. Une musique qui vous échappe, qu'on écoute, mais qui résiste, qui ne pourra jamais être mise en boîte, vendue comme des petits pains. Voilà, c'est une musique qui a une longue histoire déjà. Après 1945, nous avons les grands-pères de la musique contemporaine, les Pierre Boulez, les Karl Heinz Stockhausen, les Yannis Kenakis, et puis nous avons une deuxième et actuellement une troisième génération de gens très jeunes, 20 ans, 25 ans.
Qui font leur apparition sur la scène contemporaine. Alors vous le disiez, c'est une musique qui échappe un petit peu à la chosification, qui erre dans des sentiers qui ne sont pas encore défrichés. C'est une musique particulière, hein. On est dans peut-être l'ère de l'expérimental avec cette musique-là, qui peut-être contrebalance comme ça la musique conventionnelle qui s'achète comme des petits pains, hein, je reprends vos mots. C'est une expérience de l'écoute alors ?
Exactement. Actuellement, nous vivons une société où les choses sont assez simples. On a d'une part des choses absolument standardisées, tellement récurrentes que la théorie de l'information nous dirait qu'ils apportent 0,0001% d'informations nouvelles. Et puis de l'autre côté, nous avons des choses extrêmement originales, d'où leur extrême difficulté, 100% de nouvelles informations, qui elles ont besoin bien sûr de temps pour être comprises. Donc ces choses-là, le qualificatif expérimental leur convient parfaitement, dans la mesure où historiquement ça s'est vérifié que avec un décalage de 20 ans, un pourcentage de ces événements expérimentaux passe ensuite dans la première catégorie, avec 20 années de retard. Donc par exemple, dans beaucoup d'expériences qui sont faites dans ce qu'on appelait la musique électroacoustique les années 50, aujourd'hui on les retrouve dans la musique électro, qui elle aussi est expérimentale, hein, qui peut être aussi à sa manière expérimentale. Mais disons, on trouve des choses que faisait Schaeffer dans son petit studio avec 20 auditeurs. Il y a 50 ans, aujourd'hui, ils sont répandus, ils commencent à se répandre.
Alors c'est une musique qui s'accompagne de nouvelles technologies, hein. Vous citez l'électronique par exemple, de nouveaux modes de penser également, hein, penser la musique autrement, notamment avec Xenakis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Également Armel Orio, hein, vous êtes interprète et artiste de musique contemporaine. J'aimerais bien avoir également votre avis sur la question.
Oui, je crois que Makis a dit énormément de choses très 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 justes. Moi, j'ajouterais peut-être que on bénéficie pas du même environnement. Enfin, c'est très difficile pour l'écoute d'arriver à percuter ce qui est nouveau. Dans la mesure où la musique, ça se passe dans le temps. C'est très différent de, par exemple, aller voir un tableau très très contemporain dans un musée où éventuellement on peut s'attarder, revoir, revenir. La musique contemporaine, c'est rare qu'on puisse la rejouer plusieurs fois. D'ailleurs, c'est dommage. Moi, j'ai créé des pièces depuis 20 ans. C'est un énorme travail, évidemment, hein, pour les mettre en place. Mais ensuite, est-ce que ça va être joué ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une deuxième possibilité d'écoute ? Et c'est là que les radios et que les médias ont un rôle à jouer, évidemment.
On pourrait ajouter justement que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'écoute, justement, d'où la thématique du premier festival, c'est-à-dire pour apprécier la musique contemporaine, il faut faire un effort, au meilleur sens du terme, se débarrasser de ses préjugés, ouvrir grande ses oreilles.
Et ses yeux.
John Cage, un autre pionnier que j'ai pas cité tout à l'heure, disait « Happy New Ear », en faisant le jeu de mots « Happy New Year » et « Ear » avec l'oreille. Toute l'affaire de la musique contemporaine, c'est créer une nouvelle oreille, une nouvelle écoute.
Mais difficile à aborder uniquement par le disque. Il faut voir, notamment les premières fois, il faut voir comment ça se passe sur scène.
Il y a une expérience très théâtrale aussi qui accompagne la musique. On pouvait le voir hier avec notamment des voix et des interprétations de voix que vous interprétiez hier, Armel. Il y a quand même une portée très théâtrale de la chose. Et j'ajouterais aussi très chorégraphique.
C'est vrai que la voix est un bon média. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mimétisme, chacun dans son corps peut ressentir. Donc, pour la musique contemporaine, c'est souvent un accès... ça facilite beaucoup la compréhension de ce qui se passe.
C'est vrai que la réception de ce genre un peu décloisonné, peut-être les difficultés à accéder à cette nouvelle forme musicale, c'est ce dont tu me parlais, que tu évoquais un petit peu plus avant, Olivier Ribaud, la réception du public par rapport à cette musique-là. Tu me disais, il faut savoir écouter, il faut se mettre en condition pour écouter.
Oui, il faut se mettre... il faut prendre en considération qu'on se dirige vers une nouvelle musique. Donc qui n'est pas commune avec certaines musiques actuelles, donc il faut arriver donc avec une autre oreille quoi et une façon enfin une se mettre dans une position où on se détache de préjugés et où on se met vraiment face à une nouvelle musique. Et donc il faut avoir quand même une écoute, une certaine. Enfin, on n'est plus dans une écoute passive. Il faut avoir une écoute beaucoup plus impliquée, beaucoup plus présente et beaucoup plus proche de la musique pour pouvoir mieux profiter de ces événements.
Gourmande.
Alors, on parlait de l'aspect théâtral, de l'aspect aussi chorégraphique. John Cage, qui avait pas mal travaillé avec Trisha Brown aussi. Trisha Brown interprétait, chorégraphe des années 80 new-yorkaise, interprétait des chorégraphies adaptées sur la musique contemporaine. Il y a une dimension du corps aussi qui peut se mettre dans cette espèce de bruitage, ces espèces d'espace sonore non défriché qui peut être intéressant par le corps à vivre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Armel, vu que vous interprétiez beaucoup avec votre corps aussi.
Il y a même des expériences actuelles qui sont conduites, par exemple par Alain Bonnardy, où c'est le corps et l'émotion de l'interprète qui déclenche des réactions au niveau de l'ordinateur qui va envoyer des propositions musicales que l'interprète prend ou ne prend pas. Enfin, donc, on voit aujourd'hui, je crois qu'il y avait des danseurs aussi, enfin, ça fait longtemps qu'en danse, on a expérimenté les capteurs sur le corps pour déclencher les sons aussi, pour déclencher les lumières.
C'est une question énorme. L'un des problèmes majeurs de la musique a été, du moins dans une certaine tradition, la musique classique, qu'on l'a coupé de son corps. Le musicien, encore aujourd'hui au conservatoire, se cache derrière la partition, etc., etc. Le corps tend à être absé. Ça fait 30 ans déjà que les gens, même dans le milieu classique, l'intègrent de plus en plus. Et c'est vrai que la musique contemporaine a pris en charge cet aspect-là, d'essayer de recoupler le musicien avec le corps. On peut citer la musique électroacoustique, l'audition avec des centaines de haut-parleurs, qui est aussi une expérience corporelle. Pas de mouvement, donc c'est pas la danse, mais corporelle. C'est
celle
pas
qu'on aura aujourd'hui, par
l'oreille.
Exemple.
Exactement.
Oui. Bon, on va en parler un petit peu plus après. On va écouter un court extrait sonore, justement, de la première soirée qui s'est déroulée hier.
Oh,
Voilà, on écoutait deux extraits de Stockhausen qui se sont déroulés hier. Alors, c'est des extraits qui se sont déroulés indépendamment. Moi, je les ai montés et mixés pour qu'ils se recoupent. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on a entendu hier. C'est juste deux courts extraits. On voit bien, là, la démarche un petit peu théâtrale hein, avec les voix, le Stock. Oh, enfin, il y a des choses qui s'entendent, hein, qui se vivent sur scène. On va parler un petit peu plus du festival en lui-même, de par son nom d'abord. Tiens, Olivier, Turbulence Sonore, qu'est-ce que ça t'évoque, toi ?
Ben, Turbulence Sonore, donc j'entends par là une musique qui peut choquer l'oreille, qui peut la provoquer, qui peut la violenter. Et voilà.
Et donc, cette expérience qu'on fait là,
expérience.
C'est donc un choix au niveau du nom qui est quand même.
Certainement, c'est pas l'harmonie universelle.
On n'est pas dans l'harmonie. La démarche de ce festival, c'est quoi ?
Alors, tout d'abord, les personnes qui l'ont pensé, donc nous sommes un groupe Armel Aurieux, Christophe de Coudenove, professeur de composition au CRR de Montpellier, Didier Achour, guitariste qui a joué hier, et moi-même, professeur à l'université. Donc, ça fait 2 ou 3 ans qu'on réfléchissait pour essayer de promouvoir la musique contemporaine dans la région. Et puis, nous avons eu la chance de rencontrer l'ensemble Syntaxe de Perpignan, sur notre chemin, qui a bien voulu coproduire ce premier festival que nous présentons, relativement modeste, et nous espérons bien sûr augmenter nos moyens l'année prochaine.
Oui, c'est une première ouverture cette année, mais c'est vrai que ça a été un long travail et de bénévoles. Et on remercie à ce niveau-là, d'ailleurs, les musiciens, enfin, tous ceux qui se sont impliqués, les professeurs, parce que vraiment, il faut ouvrir cette porte-là. Et puis, le public montpelliérain était là hier. On espère aussi demain, aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie curiosité, je pense, par rapport à cette musique.
C'est ça. Je pense que c'est la curiosité. Parce que c'est une musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Oui. On n'est pas forcément familiarisé à cette musique-là. Moi, j'y suis allée par curiosité aussi également. Quoi. Oui. Je pense qu'il faut être curieux pour.
Je pensais à la gourmandise d'un enfant qui dit « Oh, il y a un nouveau rayon de bonbons, il faut aller goûter un peu à tout. » Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on ne va pas forcément aimer. Il y a des bonbons salés, par exemple, c'est terrible. Mais bon, on peut venir goûter.
Il y a peut-être des caramels mous sucrés très délicieux.
Des trucs qui coulent, enfin, il y a de tout.
Au niveau de la démarche, est-ce que c'était justement cette diffusion de cette musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre auprès d'un large public hein, vous faites quand même une entrée libre, donc c'est un des buts, hein, ça apparaît en tout cas assez fortement. La programmation ensuite de ce festival, parce qu'il y a moult gens qui sont concernés par l'affaire.
Donc la programmation, on a essayé de trouver un équilibre avec le peu de moyens dont on disposait, entre d'abord étudiants et professionnels. Donc nous avons 2 concerts étudiants et 3 concerts de professionnels de haut niveau. Nous avons essayé également de trouver un équilibre entre les générations. Donc nous avons les jeunes compositeurs du CRR, 22, 23 ans pour certains. Nous avons des gens déjà morts, Stockhausen, donc né en 1926, est mort il y a déjà 5 ans. Et nous avons les générations intermédiaires. Enfin, équilibre entre ce qu'on appelle les genres. Donc nous avons de la musique instrumentale, de la musique électroacoustique diffusée par haut-parleurs, des écosystèmes audibles diffusés par haut-parleurs, mais selon une autre logique, et enfin de la musique mixte regroupant haut-parleurs et instruments. Il nous manquerait bien sûr un autre volant qui sera peut-être l'affaire de notre festival, le multimédia, qui commence à être à la mode, ou la relation avec la danse, avec le théâtre, etc.
C'est large. C'est large et varié et assez riche.
Et pouvez-vous nous parler donc du coup des systèmes qui vont être utilisés dans le cadre de ce festival, l'acousmonium par exemple,
donc pour commencer. Ce soir, nous aurons l'acousmonium en première partie du second concert et en deuxième partie des écosystèmes audibles. L'acousmonium, qui est le système appelé Motus, c'est un système de diffusion. Le son existe sous forme de disque dur. Il y a une époque sous forme de bande, maintenant c'est sur ordinateur. Et puis il y a un interprète sur scène au milieu de la salle, on va dire, qui a la table de mixage et qui va s'amuser à spectaculariser ce son, à l'envoyer à travers plus de 30 haut-parleurs, à droite, à gauche, au centre, en haut, en bas. Il y a même des haut-parleurs à côté de vous, à côté des auditeurs.
Oui, qui sont complètement dans la scène et dans la salle.
La diffusion sera assez faible, il ne faut pas que le public s'inquiète. En deuxième partie, les écosystèmes audibles, c'est toute une autre logique, 8 haut-parleurs seulement. Donc c'est le compositeur Agostino Di Scipio, et qui lui n'amène pas un seul son préfabriqué, il n'y a rien. Le son va apparaître en fonction de la salle et bien sûr du public. Donc il a construit tout un système informatiquement assez élaboré qui capte le son en temps réel, qui l'enregistre, qui le transforme, qui le rediffuse, qui le retransforme, qui le... etc. Feedback. Avec des systèmes de transformation, donc si le son tout d'un coup dépasse un cap et devient trop intense, il est diminué. Et bien entendu, le risque, tout d'un coup, il n'y ait pas de son, donc oui. Il y aura beaucoup de silence. C'est toute une autre expérience. Dans le premier cas, l'acousmonium, on a un son fait diffuser, donc l'espace c'est pour
on
diffuser.
On travaille sur la spatialisation.
Voilà. C'est un orchestre de haut-parleurs.
Et dans le deuxième cas, le son, on a quelque chose qu'on peut appeler le son espace. Le son n'existe que parce qu'il y a de l'espace. C'est vraiment une logique, voilà, d'où écosystème, donc il renvoie à l'écologie, etc.
Il y a une part d'aléatoire là-dedans, hein, un petit peu.
Plus que d'aléatoire, une part de présence.
De présence.
De présence, c'est-à-dire ici et maintenant, avec tous les risques que comporte la présence, l'humain.
D'accord. Rassembler les gens ici et maintenant pour une présence, fixer le temps un petit peu. Hein.
Fabriquer son propre concert.
Et fabriquer son propre concert. Mmh. Oui, un orchestre de... C'est ce que vous disiez,
un orchestre de public.
L'heure tourne. Je vais rappeler qu'il y a également des conférences, des tables rondes, des ateliers qui sont organisés, notamment dans ce festival, en partenariat avec le RIRA, qui est donc...
Le centre de recherche de l'université.
Paul Valéry. et que cet événement se déroule du 3 au 5 février 2010, donc à l'université Paul Valéry. Ce soir, eh bien, 19h15, première vague de concerts. Donc ça, c'est donc ce que vous parliez, l'acousmonium. Ce dont vous parliez, pardon, l'acousmonium. Et puis la deuxième vague de concerts arrive à partir de 20h45 pour cette fois donc cet orchestre de public, de haut-parleurs, etc. Les écosystèmes, oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup à vous deux, Makis Salomos et Oriane Orio de Armel Orio, pardon, d'être venus aujourd'hui nous parler de ce festival. Merci Olivier de nous avoir précisé, d'avoir apporté quelques précisions au sujet méconnu. Et puis bonne écoute à tous, bonne découverte et soyez curieux. Allez tendre l'oreille du côté du théâtre de l'université. Il y aura sûrement des surprises à découvrir. On se quitte avec, un extrait sonore. Non, peut-être pas d'extrait sonore. On se quitte avec un extrait sonore surprise également. On est dans la surprise ce matin.
Bonjour, tout ce poste, deuxième partie. Après la musique contemporaine, nous allons parler de l'événement en Haïti, donc l'événement tragique. Avec moi au micro ce midi, nous avons Rémi Vert, qui est président de l'association Solidarité Dom Tom. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous avons ensuite Ralph Alési, avec un Z et pas un S comme le pilote, qui lui est président de l'association des étudiants haïtiens. Bonjour Ralph.
Bonjour, bonjour.
Et je fais une grosse entorse à la galanterie. Nous avons aussi donc Nadia Charki, qui est responsable de la communication de l'association des Amis des Enfants d'Haïti.
Tout à fait.
Voilà, parfait. Donc, nous savons tous que le 12 janvier de cette année, Haïti a été atteint par un fort tremblement de terre de 7,3 de magnitude sur Richter. Et voilà, et tout a été détruit. Nous vous avons présenté les invités. Nous avons quelqu'un qui devait être parmi nous aujourd'hui, c'est Jacques Touchon, le professeur Jacques Touchon, qui est l'adjoint au maire aux relations internationales donc de Montpellier. Et si nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que aussi la mairie de Montpellier et aussi l'agglo et la région en font beaucoup pour les événements en Haïti. Et nous l'avons interviewé et il a tenu à être parmi nous aujourd'hui. Nous allons l'écouter et débattre après.
Oui, la ville de Montpellier, à la demande de Madame le maire, a réagi extrêmement rapidement, puisque le 18 janvier a été organisé à la Maison des Relations Internationales une veillée où avaient été invités les Haïtiens de Montpellier et toutes les personnes qui soutenaient ce peuple haïtien. Madame le maire Hélène Mandroux a proposé que cette soirée ne soit pas une soirée de discours, mais une soirée de témoignage. Et donc un certain nombre d'Haïtiens ont témoigné des problèmes qui se posent à Haïti après cette catastrophe, cette terrible catastrophe. Ça a été une soirée très digne où tout le monde a pu évoquer ce qu'est Haïti et les problèmes qui se posent. À la fin de la soirée, chacun a pu allumer une bougie dans le jardin de l'hôtel de Sully, qui est la maison des relations internationales. Ça a été vraiment une soirée extrêmement riche, extrêmement profonde, qui témoigne de l'attachement de la ville de Montpellier au peuple haïtien. La deuxième décision a été de proposer une subvention de 50 000 euros. Cette subvention, à la demande d'Hélène Mandroux, va être votée lors du prochain conseil municipal, lundi 8 février. 50 000 euros qui seront destinés à l'UNICEF, parce qu'il nous a semblé que les problèmes peut-être les plus importants et qu'il ne fallait pas négliger étaient celui des enfants d'Haïti.
Pourquoi passez-vous par l'UNICEF, justement ?
Parce qu'il faut s'assurer que le don qui est fait puisse arriver effectivement sur une action à Haïti.
Parce qu'il est arrivé de voir que les dons n'arrivent pas forcément au destinataire ?
c'est arrivé. Et donc, lorsque un pays est désorganisé par une catastrophe, parfois, les dons qui sont réalisés n'arrivent pas complètement à destination. Donc, le fait de passer par l'UNICEF nous permet d'avoir une assurance.
En plus, vu que les moyens de communication ne sont pas forcément rétablis, c'est vrai que même l'envoi par aux banques et même par Western Union, ce n'est pas forcément évident. Et j'ai vu le consul d'Haïti qui disait qu'il y en a qui partaient avec des mallettes.
Oui, donc c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. C'est pour cela que le choix de l'UNICEF a été fait. Le troisième type d'action a été mené par le CCAS sous la direction de Christiane Fourteau pour aider les étudiants haïtiens en difficulté. Et donc là, il y a un soutien précis. Hein.
D'accord, déjà, d'ailleurs, nous avons parmi nous sur le plateau Ralph, qui est le président de l'association des étudiants haïtiens, justement.
Voilà, donc c'est là une action très, très directe hein, sur le site montpelliérain. Et la troisième action qu'a mis en place la mairie de Montpellier, c'est en fait de pouvoir mettre à disposition des associations haïtiennes ou des associations amies les salles de la mairie, en particulier les maisons pour tous, pour divers types de manifestations que les associations voudront bien organiser, que ce soit des rencontres, des discussions, un gala, pourquoi pas. La mairie sera en support par, en particulier, la mise à disposition de salles. Et enfin, je crois qu'il faut envisager cette aide pour Haïti sur le long terme. Et c'est pour cela que la mission de co-développement que désire développer Madame le maire peut jouer ici un rôle. Le co-développement pourrait se mettre en place avec une des petites villes qui entourent la capitale. Et je dois recevoir demain, mercredi, un attaché d'ambassade qui travaille justement dans ce registre-là du co-développement, un ancien Montpelliérain, M. Fraissinet, qui est revenu d'Haïti il y a quelques jours, qui repart dans quelques jours, et que je dois rencontrer demain pour essayer de voir comment on peut envisager une action de type co-développement.
Voilà, merci M. Touchon. Donc nous avons relevé les quatre points que la mairie veut mettre en place. Il nous a parlé justement de mise à disposition des locaux et donc du logistique pour les associations. Et justement, Rémi, je me tourne vers toi, Rémi Vert, parce que donc toi, tu es de l'association Solidarité Dom-Tom, une association qui existe depuis 93, je pense.
Oui, une association qui existe depuis 93 et qui a été fondée par un groupe de travailleurs antillo-guyanais. Qui était venu à Montpellier par le système du Bibidome qui n'existe plus. Et ils sentaient le besoin de se rencontrer. Et donc, ils avaient créé une association qui pour leur permettre de se rencontrer et de, je dirais, continuer à perpétuer la culture et puis les rencontres qui se font de manière naturelle, je dirais, dans les pays, les départements d'outre-mer. Et ensuite, cette association s'est développée. Et je dirais qu'aujourd'hui, en tant que président, le nom de Solidarité Dom-Tom n'a plus lieu d'être, puisque nous sommes une association qui est ouverte à tout le monde. Et je dirais, comme son nom l'indique, c'est de la solidarité, c'est plus une histoire d'île ou de culture. Et depuis que Haïti a eu ce sinistre, nous avons tout de suite dit que nous devions faire quelque chose. Comme M. Touchon vient de vous le dire, il y a des fois, lorsque vous avez des catastrophes comme ça, il y a des dons qui partent un peu partout. Et avec l'association de Ralph et de M. Bénédicte, qui aide les enfants, nous avons voulu mettre en place quelque chose de concret via notre association, en servant de base logistique. Et on ne voudrait pas passer par une association humanitaire, je dirais, ces rouleaux compresseurs qui existent déjà et qui font un travail phénoménal. Mais nous aimerons faire une petite goutte d'eau, mais qui arrive à destination. C'est-à-dire qu'avec Ralph et Bénédicte et puis toute l'équipe, nous aimerions que, à partir de Montpellier, qu'on puisse faire arriver quelque chose, soit à Jacmel, soit dans une autre ville, soit à Gouinaïve, mais au moins que le travail qu'on effectue à Montpellier puisse arriver. Effectivement, nous avons rencontré les partenaires avec qui la solidarité d'un temps de travail, qui sont la mairie, comme M. Touchon vous l'a dit, une soirée avec en tant qu'organisateur, ben, les associations haïtiennes et puis Solidarité Dom Tom. Ensuite, il y a plein d'autres organisations, plein d'autres choses qui se font sur Montpellier et la région. Mais nous, nous aimerons marquer de la diversité de Montpellier et puis surtout à montrer que lorsqu'il y a une catastrophe, ben, tout le monde est là avec nos frères haïtiens.
Donc vous avez l'avantage justement de la proximité et vous coordonnez l'action donc des associations de l'Ami d'Haïti et des associations des étudiants représentées ici par Ralph. Justement Ralph, donc tu me disais que toi tu es haïtien justement.
Oui, oui.
Le seul autour de cette table, je pense.
Oui, oui.
Et né à Port-au-Prince.
Oui, né à Port-au-Prince, oui.
Et aujourd'hui, tout est dévasté.
Pas exactement tout, il y a à peu près 30% de la capitale. Okay. Haïti, c'est quand même, Port-au-Prince, c'est quand même une assez vieille ville. Donc, toutes les anciennes constructions qui n'étaient forcément pas construites sous des normes sismiques, ben, ce sont ces constructions qui sont détruites. Et évidemment, il y a les pertes humaines importantes que l'on connaît derrière. Et c'est ça le drame aujourd'hui.
Et en tant qu'étudiant, donc, et quel est le niveau de l'université là-bas, enfin, le niveau actuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? L'université est-il toujours debout ou...
Alors, en Haïti, il y a déjà, comme il y a l'université en soi.
À Port-au-Prince. Ouais.
Oui, à Port-au-Prince, pardon. Mmh. Il y a l'université d'État, déjà. Mmh. Bon, évidemment, c'est au centre-ville. Hein. C'est... Si les bâtiments qui ne sont pas complètement effondrés, ils sont fissurés. Donc, ils sont absolument hors d'état de fonctionner. Les étudiants ne peuvent absolument pas aller suivre les cours. Ensuite, il y a des universités privées, comme l'université Quisqueya, l'université Notre-Dame, et qui sont assez réputées en Haïti. Et l'université Quisqueya est complètement effondrée et l'université Notre-Dame, elle est fissurée. Et en ce moment, il n'y a aucun lycée, aucune université qui fonctionne.
Est-ce que vous avez comme objectif justement de faire quelque chose pour les étudiants haïtiens qui sont là-bas?
Oui, justement, avec l'association, on s'est réunis et c'est justement l'un de nos objectifs principaux, d'essayer d'entreprendre des démarches, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, ce qui est en notre pouvoir, bien sûr, pour voir quels sont les étudiants qui peuvent venir étudier en France et qui peuvent aussi obtenir des aides pour pouvoir continuer leurs études, parce que ça serait vraiment un gâchis que toute cette jeunesse se perde comme ça après un tel drame, bien sûr.
Parce qu'en plus, justement, Haïti apporte un lourd passé, et parce que déjà, dès le départ, avec les conquistadors, après l'esclavage, ça n'a pas été trop ça. Il faut rappeler que Haïti, déjà, c'est le seul pays à avoir gagné son indépendance, ouais. Par exemple, donc depuis 1804, c'est ça, vous êtes indépendant?
C'est ça, oui. Si on rentre dans les détails, bon, pas trop quand même. Juste après la Révolution française, 1789, et on a commencé. Ça a un peu affaibli le pouvoir français sur l'île, évidemment, et on a commencé les révoltes vers 1790 déjà. Donc, d'accord. Déjà en 1790, il y avait les combats qui s'engageaient, et bon, après une décennie de lutte à peu près, on a pu proclamer officiellement l'indépendance en 1804. Mais déjà, au début du 19e siècle, on était déjà quasiment maître de.
Et là, vous êtes écrasé par le poids, justement, parce que je pense que la France a réclamé l'équivalent de 50 millions. Et donc tout,
en 1825, oui.
Voilà, d'où le marasme financier d'Haïti, parce qu'il débute déjà avec ça. Et ça a continué. Mm-hmm. Et après, on connaît bien les dictatures des Tonton Macoute avec les Duvaliers.
Oui, aujourd'hui, c'est évidemment condamnable, cette demande, c'est choquant, on va dire. Mais même si je suis haïtien, je dois reconnaître qu'il faut un peu se reporter au contexte de l'époque. Haïti, c'était quand même une colonie française et qui devait payer des taxes, je veux dire. Donc, franchement, on a eu beaucoup d'abus, bien sûr. Mais je pense que l'un des abus les plus importants, qui ne sont pas souvent relatés dans les livres d'histoire, c'est que les premières années d'indépendance, on a quand même eu pratiquement un demi-siècle d'embargo. Et il n'y a aucun pays qui peut prospérer sans commerce, sans relation avec l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc, et c'est comme s'il y a un enfant qui vient de naître et vous ne lui donnez pas les éléments essentiels, Et donc, bien sûr, l'enfant ne sera jamais bien portant quand il
sera
grand.
Et après, du coup, justement, dans les années 90, on pense qu'il y a un mieux, justement, au niveau gouvernement, avec Aristide, et maintenant, il y a Préval. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu, pas choqué ni froissé, mais j'ai vu le bulletin d'information du gouvernement du 25-10. Il faut rappeler, justement, qu'aujourd'hui, le chiffre, il y a 200 000 noirs, à peu près. Il y a 1 200 000 abris. Et il y a quelque chose qui était un peu... parce que le gouvernement qui disait, justement, concernant les bâtiments, comme tu disais, tout est fissuré et tout ça. Et il préconisait, si un bâtiment n'a pas l'air sûr, je cite, hein, si un bâtiment n'a pas l'air sûr, c'est qu'il n'est pas sûr. Et donc, on doit éviter d'y pénétrer. Est-ce que ça ne fait pas preuve d'un peu de... Bon, on sait, hein, c'est le chaos, mais d'un peu d'amateurisme?
Oui, c'est évidemment condamnable si certains dirigeants parlent avec une légèreté de situation aussi dramatique. Mais sans vouloir faire l'avocat du diable, il faut aussi comprendre que le gouvernement, ils ont des moyens logistiques très très réduits en fait. Donc les systèmes de communication sont très diminués. Déjà, même le président, il n'a pas son bureau, ce qui fait que ses décisions ne peuvent pas être respecté, il peut même pas aller relayer parfaitement. Donc c'est vrai que même les Haïtiens aussi, ils ont condamné l'absence de leadership du président de la République, mais ils doivent aussi comprendre qu'il y a des circonstances très atténuantes, parce que le président de la République, c'est un être humain comme tout le monde. Il a subi des pertes personnelles, donc il est affecté comme tous les Haïtiens, on peut le dire, tous les Haïtiens. Et il faut, je pense que s'ils ont précisé ça, c'est parce qu'il y a des Haïtiens qui sont, on trouve ça partout, des gens qui sont quand même assez imprudents.
Et qui sont tentés, ce qui est logique. Et oui. Ce qui est bien dans cet événement, on voit la dignité du peuple haïtien. Et on voit aussi avec quel calme tu nous parles là aujourd'hui. Oui. Et je me tourne aussi justement vers Nadia, parce que Nadia, toi, tu as été en plus en Haïti en mai, dans le cadre de l'association.
Tout à fait.
Et tu m'as dit quelque chose, que tu es tombée amoureuse, pas forcément d'un Haïtien, mais de l'Haïti et du peuple haïtien.
Tout à fait, oui. Je suis allée donc au mois de mai 2009 dans le cadre de l'association des Amis des Enfants d'Haïti avec Bénédicte Paul donc en Haïti. Donc j'ai été à Port-au-Prince, j'ai été à Gros-Morne, j'ai été à Gonaïves, à La Culle-Verneuil. Et effectivement, je suis tombée amoureuse de ce pays, de ce peuple, dont je n'ai connu que l'accueil chaleureux, l'hospitalité, la générosité. C'est vrai que la situation était déjà très difficile, bien avant le séisme en Haïti, mais c'est vrai que les Haïtiens n'ont rien, et pourtant ils trouvent le moyen quand même de tout vous donner. À vous qui arrivez de l'étranger, c'est eux qui vous donnent, alors que c'est vous qui êtes venus pour donner. Je suis partie pour donner et j'ai tellement reçu, j'ai énormément reçu.
C'est un beau message d'espoir. Malheureusement, l'heure passe et là, on a fait une petite émission avec tout le monde. Et nous donnons rendez-vous prochainement, peut-être dans un mois, pour voir si tout a été fait, ce qui a été fait. Et qu'on soit bien. Je vous remercie tous d'être venus.
Merci à toi.
C'est nous qui te remercions. Merci.
Merci aux chers auditeurs.
Merci de nous avoir accueillis de manière si chaleureuse.
Merci aux divergentes et divergents de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et à très bientôt.
Grave la poêle manger. S'il n'est pas dodo. Grave la poêle manger. Poil manger, s'il n'est pas dodo, crabe la poil manger. Dodo, t'es busy, maman. Dodo, t'es busy, maman. La poêle manger, s'il n'est pas dodo, crabe la manger.
Et c'est ainsi que se referme ce Tous au poste entre musique contemporaine et Haïti, le désastre qui se déroule en ce moment. Eh bien, on va quand même passer une bonne après-midi, hein. Le temps est gris, mais nous allons sortir, voir ce qui se passe culturellement. Il y a plein de choses à faire. Nous vous laissons entre les mains eh bien, de nos programmes radiophoniques. À suivre donc, eh bien, à 17h, vous retrouverez eh bien, notre rendez-vous avec l'information internationale. Ce sera le Flash Info de RFI qui sera suivi de la rediffusion de cet agenda culturel, notre Tous au poste à 17h10. Ensuite, eh bien, nous vous laissons entre les mains de Marie-Pierre Soriano qui nous présente entre musique, cinéma, BD, et bien son magazine et puis Divergence numérique, l'actualité des logiciels libres et des nouveautés de l'ordre d'internet. Ce sera à 19h Orinoco qui suit la cadence à 20h, excusez-moi, je suis un petit peu en speed. Orinoco, c'est la découverte du Venezuela avec le passionné Gilles Beg, et ce sera suivi du Rock à Joe, notre émission menée par Jacques Bonnet, notre émission tout en musique rock. L'invité vous amènera sa musique et devra répondre à l'interrogatoire Nyctalop de Joe, Jacques Bonnet, le doyen divergent. Bon après-midi et bonne écoute sur nos programmes de Divergence FM. Vous êtes sur le 93.9. Bon voyage.